2915, c'est le nombre de participants impliqués dans la nouvelle expo 2915 aux ateliers Jean Briand jusqu'au 24 mars. Une exposition organisée par Execo, dont on s'apprête à parler dans quelques instants. Et à mes côtés, je suis absolument ravie de pouvoir m'entretenir avec deux représentants de l'organisme Execo. Il s'agit de Dorothée de Colasson, représentante de l'organisme Execo, et bien sûr de Frédéric Péloquin, qui est artiste, qui a passé à travers tout un processus dont il va nous parler aussi. Alors, bienvenue.
Merci.
Merci.
Si vous nous parliez du mandat de Execo, je pense qu'il y a une pratique inclusive qui est à la base de votre mandat.
Oui, donc Execo, c'est un organisme qui a maintenant 11 ans et dont la mission, c'est de rendre la société plus inclusive, donc de la transformer pour que chaque citoyen, chaque citoyenne prenne parole, prenne sa place en fait dans la société, tout étant basé sur une posture éthique qui s'appelle la présomption d'égalité des intelligences et qui revient à présumer que la personne en face de soi est tout aussi capable et intelligente, tout aussi capable de créer et de penser que soi-même, et de voir comment en adoptant cette posture-là, ça peut venir influencer les relations sociales.
L'égalité des intelligences, c'est un concept quand même assez audacieux. Vous avez aussi une approche axée sur la créativité. Si vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette approche créative qui vous caractérise.
En fait, à Execo, on mêle trois types de médiation, la médiation sociale, la médiation culturelle et la médiation intellectuelle. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, on essaye de créer des ponts, soit entre des individus, soit entre des supports de la culture et des individus, ou alors faciliter la pratique artistique et culturelle, soit entre, justement, l'expression de la pensée et de la parole. On utilise beaucoup la créativité, en fait, sous toutes ses formes à travers nos projets. On met en place des espaces dans lesquels les gens peuvent créer. Métissage urbain est un très bon exemple parce
que... C'est une majeure, hein, la créativité?
Oui.
Dans votre approche?
C'est ça. Puis on va utiliser souvent la créativité comme un prétexte pour que des gens qui ne se seraient pas nécessairement rencontrés se rencontrent.
Ça, c'est intéressant. Donc, à quelle clientèle spécifique s'adresse votre approche à Execo? Je suis curieuse. Ce n'est pas qu'aux gens qui sont identifiés comme marginaux, hein?
Non, en fait, au début, on a commencé à Execo à lutter contre l'exclusion sociale en travaillant plus avec les exclus, en travaillant avec les personnes dites marginalisées ou à risque d'exclusion. Donc, c'est les premiers programmes d'Execo, c'était en milieu carcéral. On a beaucoup travaillé aussi en itinérance, en décrochage scolaire, en employabilité, santé mentale, en déficience intellectuelle, etc. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que si on voulait changer les choses de façon durable puis de façon systémique, il fallait travailler aussi avec ceux qui, consciemment ou non, génère l'exclusion, donc monsieur et madame tout le monde qui peuvent avoir des préjugés, et avec les institutions, que ce soit les institutions culturelles ou la police ou les autres organismes communautaires, ou avec les politiques. Donc aujourd'hui, on travaille avec tous ces gens-là. Métissage urbain, c'est plus spécifiquement des projets dans l'espace public qui viennent créer des liens entre ce monsieur et madame tout le monde et les populations plus marginalisées. Donc comme on est dans l'espace public, ça s'adresse à tout le monde.
Alors, si on faisait un schéma, ce serait vraiment dessiner des interconnexions que vous tentez de créer entre les différentes composantes de notre société, hein? Alors, tout un réseautage autour des gens marginalisés, malheureusement.
Bien, précisément, c'est l'idée d'entremêler, en fait, les différentes sphères, puis de faire jouer, par exemple, d'avoir des personnes en situation d'itinérance qui viennent proposer des projets à l'Assemblée nationale ou d'avoir des personnes qui travaillent dans les organismes communautaires qui viennent s'inspirer de nos pratiques ou, ben, encore une fois, comme dans Métissage urbain, de venir outiller des artistes pour agir avec des populations avec qui ils sont peut-être moins outillés et donc créer du lien.
De là, donc, l'importance qu'il y ait des événements, donc, comme ceux qui se déroulent actuellement aux ateliers Jean Briand, il y a tout un événement, la population est invitée, le voisinage, mais tous les gens interpellés par Execo, le mandat d'Execo sont invités, vraiment, si vous nous présentiez un petit peu globalement, avant qu'on s'adresse à Frédéric Péloquin, sur son expérience en particulier, peut-être nous présenter cette exposition, je pense, un grand nombre d'œuvres présentées.
Oui, alors en fait, 2915, c'est une rétroaction des 5 ans de Métissage Urbain. Métissage Urbain, c'est un programme de résidence artistique dans lequel on accueille des artistes qui ont la volonté de travailler avec la communauté, qui ne savent pas toujours nécessairement par quel bout s'y prendre ou comment entrer en contact aussi avec les gens puis avec certaines populations, mais qui ont envie de challenger leur propre pratique artistique et de mettre dans les mains d'inconnus leur idée, leur concept. Donc ça fait depuis 5 ans qu'on a ce projet-là, et 2915, c'est une expo où on a une vingtaine d'artistes qui présentent leurs œuvres, donc c'est toute discipline, il y a de la peinture, il y a de la vidéo, il y a de la bande dessinée, il y a de la photo, etc. Et donc voilà, c'est une exposition pour célébrer 5 ans de création dans les rues de Montréal avec les Montréalais et Montréalaises.
5 ans de création dans les rues de Montréal. Mais peut-être ma dernière question, 5 ans de création, oui, il y a une majeure artistique, mais on a parlé beaucoup de votre mandat en général, mais concrètement, Execo, hein, c'est plusieurs projets concrets et bien des intervenants et bien des participants. Si vous nous brossiez un petit survol des activités qui prennent place, je crois, dans la rue, concrètement.
Particulièrement à Montréal, on a une caravane qui s'appelle Idéaction Mobile, qui est comme notre food truck intellectuel et culturel, où donc ce qu'on distribue, c'est plus de la nourriture pour l'esprit, donc des livres, du matériel d'art, des lunettes de vue, du matériel pour écrire, et puis plein de petits ateliers où on va aussi aller consulter les personnes sur des sujets d'actualité ou sur des sujets qui les touchent.
C'est ça qui me questionnait, le point de vue critique que vous souhaitez développer, comment vous le faites?
En prenant pour acquis que tout le monde a une pertinence à s'exprimer sur tout un tas de sujets, et donc en amenant les gens par exemple à dire ce qu'ils pensent de tel ou tel sujet d'actualité, de tel livre, de telle question philosophique, et donc en les amenant à développer leur raisonnement logique, à structurer leur pensée, à échanger leur point de vue, à partager des connaissances, c'est ça en fait l'esprit critique.
Donc, donner une voix aux plus démunis, ça vous préoccupe hautement. Et quels sont les autres projets? Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités de médiation, d'ateliers.
Oui, la médiation intellectuelle, c'est l'approche qu'on a développée, théorisée, codifiée, explorée à Execo ces dernières années. On a le programme Idéaction qui consiste plus en des séries d'ateliers, en fait, des parcours d'ateliers sur plus un 30 à 60 heures avec des groupes où là, on va passer dans trois volets, esprit critique, analyse sociale, participation citoyenne. Donc, on dit toujours qu'on va donner des outils aux citoyens pour qu'ils comprennent mieux la société dans laquelle ils évoluent, pour agir positivement ensuite sur cette société, porter des actions concrètes. On a aussi des projets qui visent plus spécifiquement à réfléchir à l'accessibilité à la culture. Donc ça, c'est notre laboratoire culture inclusive, à la parole et au savoir. Et puis on a aussi beaucoup de projets qui se passent en communauté autochtone.
Ça, c'est intéressant, hein? Oui, parce qu'on a parlé des différentes clientèles, mais il y a la clientèle autochtone que vous desservez, vraiment.
Oui, ça fait partie des deux grands enjeux, enfin des grands enjeux qu'on a à la base d'Execo, la création ou la recréation d'un dialogue entre autochtones et allochtones, le fait d'amplifier la voix des populations autochtones. Elle est depuis le tout début chez Execo et elle se retrouve aussi bien en milieu urbain qu'en communauté, où on va chaque année faire plusieurs programmes plus intensifs.
Et même d'aider l'apprentissage de la langue.
Oui, Raconte-moi ta langue, c'est un programme justement où on va venir outiller les professeurs de langue autochtone dans les communautés pour justement utiliser des techniques créatives pour favoriser l'apprentissage des langues autochtones.
Donc on sait que la langue est indissociable de la culture. Alors des grands mandats, beaucoup de chantiers, beaucoup de projets en chantier avec cette innovation sociale que vous mettez de l'avant. Vous êtes à même de pouvoir un petit peu participer au rapport de force, hein, parce qu'il faut en établir un, j'imagine, avec le gouvernement quand on est un organisme communautaire.
Ben on essaye, on a des projets, aussi bien des projets plus avec nos participants de démocratie participative directe qu'effectivement un positionnement sur certains chantiers, sur certains groupes de travail, que ce soit par la ville de Montréal ou par exemple à la Commission canadienne de l'UNESCO qui a reconnu notre pratique comme une des nouvelles pratiques philosophiques innovantes il y a quelques années. Donc une de nos cofondatrices est maintenant sur le comité exécutif de la Commission canadienne de l'UNESCO. Donc ça se passe par des choses comme ça où effectivement on essaye
Vous mettez vos pions sur l'échiquier peu à peu.
On peut dire ça comme ça.
Je vous félicite vraiment. Merci beaucoup de ces informations, des plus instructives. Et aussi, ce qui m'interpelle particulièrement, c'est la place que vous accordez au point de vue, aux opinions des démunis. Alors, je pense qu'ils ont peu de parole dans notre société actuelle et c'est un grand bienfait que vous apportez. À mes côtés, donc, Frédéric Péloquin, artiste, qui présente une œuvre vraiment d'intérêt, tout ça, aux ateliers Jean-Briand, vraiment, dès l'entrée. Nous sommes éblouis par cette œuvre réalisée en collaboration avec des participants à cet atelier d'Ex-Echo. Alors, bienvenue, Frédéric Péloquin.
Merci.
Je pense que ça a été tout un investissement et si on peut se tutoyer, oui, tu m'en glissais mot le soir du vernissage, à quel point ça a été quand même tout un processus. Alors, comment ça s'est déroulé? Cette œuvre-là, ici, je l'ai ici, quel est le nom de l'œuvre?
C'est « Oh Crow » ou « Oh Corbeau ».
Et ça réfère à quelque chose d'important?
Oui, ça réfère à un conte traditionnel autochtone, cri. Et puis, dans le fond, c'est la... On voit évidemment un gros corbeau avec trois autres petits oiseaux dans la toile et tout. Puis tout ça, c'est un peu l'épopée du corbeau qui veut aller rencontrer le grand esprit et tout ça. Puis ça a été... On est parti du conte autochtone. Moi, à cette époque-là, j'enseignais en prison, grâce à Ex-Echo d'ailleurs. Je faisais des ateliers idéaction, mais à Rivière-des-Prairies. Puis j'ai amené ce conte-là là-bas. Puis c'est avec les prisonniers qui étaient là, ils ont lu le conte, on a fait des dessins, on a discuté autour de ça. Et en même temps, dans la rue, on faisait le processus de création qui, lui, était avec des petites voitures téléguidées sur lesquelles j'ai collé des crayons feutres. Puis les gens...
Très original.
Oui, c'est...
Innovant.
Probablement. Mais c'est surtout amusant. C'est une manière de faire dessiner les gens sans qu'ils s'en rendent compte ou sans que le fameux syndrome de la page blanche revienne. Je ne sais pas dessiner, j'ai jamais fait ça ou quoi que ce soit. Bien, étrangement, conduire une auto téléguidée qui laisse des traces hasardeuses sur une toile, bien, ça devient plus naturel. Donc, on faisait ça dans la rue, un peu partout au centre-ville. Puis il faut comprendre, c'était assez grandiose parce que la toile fait 9 pieds de large par 8 pieds de haut. Donc, on débarquait ça, puis on prenait tout l'espace disponible. Là, les gens jouent aux autos. Puis un coup que j'ai jugé qu'il y avait assez de lignes sur la toile, là, j'ai pris en photo le résultat de toutes ces lignes-là, puis j'ai ramené cette photo-là au gars en prison avec qui je travaillais. Puis là, je leur ai demandé de regarder les lignes qui étaient là, puis finalement, de s'inspirer du conte. Puis là, ils ont dessiné des corbeaux, des oiseaux, un paquet d'affaires. Puis ensuite de ça, moi, j'ai repris tous ces dessins-là, je les ai ressortis de la prison, puis j'ai travaillé avec mon esprit, dans le fond, à tout coller ça ensemble pour proposer, finalement, aux personnes dans la rue, là, de pouvoir faire la peinture et d'ajouter les couleurs. Donc, juste...
Non, ça s'est vraiment fait par des personnes incarcérées et ensuite des gens dans la rue?
Bien, c'est plus que ça, parce que... Avec les gens
de la collective, ayant impliqué tous ces artistes-là, des artistes de la rue-là.
Oui, bien, il y a 150 personnes qui ont travaillé là-dessus. Je ne sais pas combien de bénévoles que Ex-Echo m'a fourni là-dessus. Et puis, c'est ça.
Une petite intervention de...
Je vais juste compléter le début de l'histoire. En fait, c'est que ce conte-là, il s'inscrit dans le cadre du projet Trickster, qui est un autre projet d'Ex-Echo. Donc, on est parti au Manitoba, dans la communauté de Garden Hill, et c'est un aîné de la communauté qui a transmis le conte aux plus jeunes, qui en ont fait un show. Nous, ensuite, on a montré les images, la captation vidéo de ce show à l'artiste Mo Clark, qui, elle, a réécrit le conte. Et c'est un conte qui est venu s'insérer dans le recueil Terre de Trickster, dans lequel il y a des contes traduits à chaque fois dans la langue originale autochtone, français et anglais. Et donc, c'est ce conte-là que Fred a amené ensuite en milieu carcéral. Donc, derrière, avant même l'étape milieu carcéral...
Il y avait tout un processus avant que ça arrive en point.
Il y a une artiste contemporaine, etc. Donc,
alors déjà, c'est tout un itinéraire pour ce conte qui aboutit finalement dans le milieu carcéral et finalement dans la rue.
Oui, mais qui en ressort, c'est ça, c'est ce qui est probablement le plus fantastique.
C'est un itinéraire.
Oui, c'est un long voyage. Puis le conte en question, c'est comme ça, c'est le corbeau veut être quelqu'un d'autre, finalement il veut être d'une autre couleur, puis le grand esprit lui répète toujours, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas ta propre destinée. Et puis j'ai l'impression qu'un peu même dans le message du conte, même dans la manière de le faire. Puis,
oui, c'est l'histoire d'un corbeau qui n'est pas bien dans sa couleur noire.
C'est ça, puis qui au bout du compte, bref, se retrouve à être à nouveau noir pour l'éternité, puisque c'était la journée où le grand esprit donnait les couleurs aux animaux. Et le corbeau, très déçu de ne plus être rouge, jaune ou bleu, dit au grand esprit, « Mais tu m'as trompé, tu m'as trahi. » Et le grand esprit lui dit, « Non, si tu regardes attentivement les couleurs, la plume noire du corbeau dans la lumière du soleil, tu y verras toutes les couleurs, donc tu es de toutes les couleurs comme tu l'as souhaité. » Donc, t'es parfait.
Oh, que c'est charmant, que c'est touchant.
C'est un super beau conte. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en prison, on a lu ça.
Quel message ça transmet, hein? Qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences.
En effet, qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences, qu'il ne faut pas essayer
d'être... C'est ça, oui, au statut de la personne aussi.
Exactement. Puis c'est ça, donc, juste ce projet-là, pour moi, est vraiment essentiel dans toute ma démarche artistique, je dirais. C'est probablement l'œuvre la plus importante. Puis par la rencontre improbable que ça a créée, là, c'est... Puis je suis très chanceux parce que Execo ont décidé de vraiment l'installer comme vous avez...
La toile est magnifique.
On rentre, puis la toile nous saute directement dessus.
Oui, la toile est magnifique, félicitations. Et surtout sachant toute sa signification, elle est d'autant plus magnifique. Comment ça s'est déroulé, cette participation-là? Est-ce que ça a été aisé ou il y a eu des difficultés?
Ça a été assez facile, si je m'en rappelle bien. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça a été très long, puis il y a eu
du travail. Travail de mobilisation, j'imagine?
Un travail de mobilisation, oui et non, parce qu'Execo fait un job superbe à ce niveau-là. Fait que, tu sais, moi, je pouvais compter sur des bénévoles qui étaient là. J'avais vraiment une équipe. Et puis, nos points de chute étaient déterminés à l'avance. Donc, on pouvait dire à nos participants, bien, demain, si vous voulez en faire avec nous encore, vous pouvez venir à la Place des Arts, on va être là à 2 heures. Le rendez-vous était donné, donc il y a des participants, il y a des gens qui ont été là systématiquement, presque à tous les jours. Mais on avait aussi la chance, c'était en partenariat aussi avec le Jardin botanique. Et puis, le Jardin botanique me laissait aussi le plaisir d'aller peindre là-bas. Donc, je pouvais installer mes toiles au Jardin botanique, puis là, je continuais exactement le même processus.
Mais avec des participants qui fréquentaient le Jardin botanique.
Exactement, exactement. Donc là, c'est complètement un autre clientèle ou un autre type de participants, je dirais. Puis là, quand je leur racontais que les lignes venaient qu'on avait fait les lignes devant le Centre d'amitié autochtone ou devant le PAC et que les dessins avaient été imaginé par des gars à Rivière-des-Prairies qui sont incarcérés. La plupart, il y en avait beaucoup qui étaient surpris, il y en a d'autres qui étaient complètement troublés. Ce qui est beau, c'est qu'il y a des enfants qui ont participé là-dessus, puis il y a des gens qui ont 70 ans qui ont participé aussi.
Alors, c'est très intéressant, vraiment. Alors, ça rend d'autant plus enrichissant cette implication. C'est ça, peut-être que je terminerai, Frédéric Pellequin, par comment, comme artiste, on vit cette expérience-là. J'imagine que ça doit demander certains ajustements. On sort de l'atelier littéralement, là, on doit sortir de notre atelier.
Oui, ça c'est sûr que c'est un autre... c'est pas l'artiste...
Un autre défi.
C'est pas l'artiste tourmenté dans son atelier, en tout cas, qui se présente ces jours-là. Mais moi, je suis médiateur pour Execo depuis plusieurs années déjà. J'ai beaucoup d'expérience avec le public, puis à travailler avec énormément de personnes différentes. Mais ce qui était vraiment beau là-dedans, c'est toutes ces rencontres uniques-là qui prennent part à raconter une très, très grande histoire, finalement. Et puis, mais tu sais, pour moi, le projet de travailler avec d'autres personnes, c'est que j'ai inventé ce projet-là quand je travaillais en maison pour personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, Parkinson et compagnie. Fait que de laisser la parole aux mains, même incertaines, et tu sais, des gens qui vont dépasser un petit peu ou quoi que ce soit, bien, ça fait déjà partie de mon processus aussi pour ce projet-là, dans le fond. Puis,
Mais avant d'avoir été impliqué ici avec Execo, tu étais déjà un artiste engagé, hein?
Oui, ça, j'ai pas. Oui, en effet. Et je pense que je le suis encore, probablement plus.
Ça va en grandissant, bien sûr, avec cette implication fort significative. Merci beaucoup, Frédéric Pellequin. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi avec Execo?
Qu'est-ce qui s'en vient pour moi avec Execo? Bien, j'ai la chance de partir avec le projet Raconte-moi ta langue dimanche prochain, donc le lendemain de la soirée de clôture du 24. Je pars pendant 2 semaines à Wemontashi avec une de mes collègues ici. Et puis, j'espère que ces projets-là vont m'amener encore plus loin puis à rencontrer encore plus de monde, de personnes fantastiques, finalement, puis qu'on va pouvoir vraiment aller à nouveau travailler avec des contes et des belles histoires qui viennent des Atikameks cette fois-là.
Alors, Frédéric Pellequin, là, c'est plus qu'un boulot. Là. Je pense que c'est une vocation d'être impliqué comme ça par Execo. Je terminerai avec Dorothée de Colasson. Peut-être une dernière petite question. Est-ce que vous avez embauché plusieurs artistes ici à Execo? Je suis curieuse.
Oui, en fait, l'équipe de médiateurs est pas mal composée de tout sauf des intervenants sociaux.
Il en faudrait quand même, peut-être.
Mais oui et non, parce que justement, ça donne...
Vous avez une majeure en art, hein, c'est ça?
On a une majeure en art et en philo. Donc, dans l'équipe de médiateurs, c'est principalement des backgrounds en philosophie et en art. On a aussi bien danse, théâtre, musique, on a un chanteur d'opéra, on a des peintres, on a une équipe assez variée. Et c'est ça qui en fait sa beauté et qui vient justement compléter l'approche en intervention sociale. On ne veut pas justement être trop teinté par ce rapport à la clientèle ou à la résolution de problèmes. Nous, on veut être axé sur les potentiels plus que sur les problèmes aussi. Donc on a cette chance-là. C'est essentiel ce que font les intervenants sociaux. On a la chance de venir parler de la pluie et du beau temps, en fait.
Alors, rappelons donc qu'il y a une exposition spéciale, donc, de 1915, se poursuit aux ateliers Jean Brillant jusqu'au 24 mars, et ça va se terminer en grand, ça va se terminer, Frédéric en parlait, par...
Oui, ça va se terminer par un 5 à 7, en fait, samedi. On va être ouvert de 15h à 20h samedi. On l'est aussi jeudi et vendredi. On a plusieurs visites qui sont organisées, qui sont des visites guidées, avec des ateliers de réflexion aussi, avec des groupes communautaires, mais qui sont ouverts au public. Donc, c'est super intéressant. Si jamais les personnes veulent se joindre, on a toutes les informations sur notre site Internet et notre Facebook. Mais c'est ça. Globalement, on y sera jeudi de à peu près 13h à 20h, et pareil pour vendredi.
Alors, beaucoup d'animations d'ici la fin de l'événement, et surtout ne manquez pas, hein, ne manquez pas l'œuvre Au Croc de Fred Péloquin. Et je vous dirais, allez voir aussi l'œuvre de Fée en aiguille juste à côté, l'œuvre Nous, Maman, Nina d'Isabelle Anguita juste à côté, qui est aussi une œuvre magnifique, vraiment. Il y aurait beaucoup à dire sur chaque œuvre, mais le temps nous manque. Allez voir par vous-même ces œuvres de près. Merci beaucoup de cet entretien, vraiment des plus intéressants. Ça faisait longtemps que je souhaite interviewer Ex Aequo, et c'est chose faite. Merci.
Merci à vous.
Merci.